Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous voici donc réunis ici, dans cette chapelle des cônes, autour de notre cher Père Bariel, de sa dépouille mortelle. Il me semble que, de prime abord, il nous est bon de demander à l'Église quels doivent être nos sentiments dans des circonstances semblables. Toute cette belle liturgie des défunts, tous ces appels que l'Église fait aux saints anges, à Saint-Michel-Archange, pour demander de porter l'âme du défunt dans le sein du Père, dans le paradis, dans le ciel, n'a d'objet, n'a de raison d'être que si nous avons la foi dans l'existence du purgatoire. En effet, si le purgatoire n'existait pas, l'âme du défunt serait ou au ciel déjà, ou hélas, en enfer. Et par conséquent, dans une solution comme dans l'autre, nos prières seraient inutiles. Celui qui est au ciel n'a plus besoin de prières, et hélas, celui qui est en enfer ne peut plus non plus se servir de nos prières. Alors, c'est parce que nous croyons qu'il y a un purgatoire et que les âmes qui se trouvent au purgatoire ont besoin de nos prières. Elles ont besoin de nos prières. Sans doute, les âmes peuvent aller directement au ciel. C'est le bon Dieu qui en est juge. Mais nous savons trop que nous sommes pécheurs et que nous avons tous à nous purifier et à demeurer dans cette antichambre du ciel qu'est le purgatoire afin de faire en quelque sorte la toilette de nos âmes, afin qu'elles soient pures, parfaites, pour rencontrer celui qui est la vérité, qui est la beauté, qui est la perfection, la sainteté, et que les anges nous y accompagnent. Alors nous prions, et nous continuerons de prier pour que Dieu veuille accueillir dans son paradis le plus tôt possible notre cher Père Bariel. Si une parole résume ce qu'a été le Père Bariel, je crois que nous pouvons dire que le Père Bariel a été un vrai prêtre. Un prêtre dans toute l'acception du terme. Il le disait avec sa simplicité et son enthousiasme coutumier, que déjà lorsque sa mère le portait dans son sein, elle l'avait consacré à la très sainte Vierge Marie et demandait qu'il soit prêtre, que si elle portait un garçon en son sein, qu'il devienne prêtre. Or, dans son enfance, dans son adolescence, au petit séminaire, au grand séminaire, notre cher Père Bariel n'a eu qu'une pensée, celle de devenir prêtre, et d'être un jour ainsi le serviteur de Dieu. Et vous le savez aussi, car il aimait à nous le dire, qu'il avait été longtemps vicaire, puis curé dans une grande paroisse de Marseille. Et là, pendant de nombreuses années, il s'est dévoué avec tout son zèle sacerdotal. Est venue la guerre. Et puis ensuite, sa rencontre avec le père Valette. Dans une ville comme celle de Marseille et comme, hélas, dans beaucoup de grandes villes, combien l'apostolat est difficile et combien pour des prêtres zélés au cœur de feu comme le père Mariel, le succès, hélas, ne répond pas toujours aux efforts du prêtre. Alors il cherchait une voie plus sûre, plus rapide, plus efficace pour convertir les âmes. Et voilà qu'il entend parler du père Valette avec ses exercices spirituels qui convertit des milliers d'âmes et qui les transforme en de bons et véritables chrétiens. Alors il n'hésite pas. Il quitte son diocèse. Il demande à son évêque de quitter son diocèse pour suivre le père Valette et prêcher avec lui les exercices. Il sera désormais ce prédicateur renommé, bien connu. La plupart d'entre vous, mes bien chers frères qui sont ici, l'avaient connu avant moi-même. Beaucoup d'entre vous sont allés à Chabeuil entendre le père Mariel et revenir remplis de zèle, remplis du désir de sanctifier vos âmes. Et c'est pourquoi vous êtes resté attaché à ce cher père Mariel. Beaucoup ont suivi ses retraites de nombreuses fois. Et est venu l'événement du Concile, qui par, hélas, ses conséquences, son pacifisme, en quelque sorte, venu de cet œcuménisme qui ne voit plus d'ennemis nulle part, mais des frères, des amis. Plus d'ennemis, alors plus de combats. Pour le père Mariel, c'était déposer les armes, puisqu'il n'y a plus de combats. Or, pour une âme comme la sienne, remplie de foi, de cette foi profonde qui animait les apôtres et qui animait tous ceux qui ont prêché l'Évangile pendant 20 siècles, ils ont lutté contre les puissances, comme le dit saint Paul, contre les puissances spirituelles qui sont dans l'air, qui sont ni plus ni moins que les démons, qui entraînent le monde dans le péché. Alors, le père Mariel a réfléchi et il a pensé qu'il valait mieux essayer de regrouper quelques-uns de ses confrères, décidés à continuer le combat d'une manière énergique, comme il l'avait toujours fait, sans changer d'orientation, sans changer de ferveur et de générosité. Et il est venu ici, il y a maintenant 12 ans, cherchant une maison, cherchant un lieu où il aurait pu réunir ses apôtres, si nécessaire encore aujourd'hui, bien sûr, plus nécessaire que jamais. Mais la Providence n'a pas voulu qu'il puisse réaliser son désir. Et alors, vivant ici, il a compris que le bon Dieu lui demandait d'infuser cet esprit d'apôtre qu'il avait, cet esprit de foi qui le menait, de le donner à ceux autour desquels et avec lesquels il vivait. Et alors il s'est dévoué auprès des séminaristes, auprès des jeunes prêtres qui sortaient du séminaire, afin de leur inculquer ce zèle du règne de notre Seigneur Jésus-Christ, et particulièrement par la prédication des exercices spirituels de saint Ignace. Et il faut le dire, il a marqué profondément ses premières années de séminaire, et nous lui devons une grande reconnaissance, car il a approfondi la foi de nos jeunes prêtres. Il leur a donné ce zèle de la prédication. Il a redonné ce zèle du salut des âmes. Or, vous savez, dans les temps modernes, actuellement, ce milieu dans lequel nous vivons est comme un milieu qui nous rend peu à peu indifférents à toute chose, qui diminue la ferveur, atténue et diminue la générosité. Alors sa présence était bien nécessaire pour secouer un peu cette torpeur dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et Dieu sait s'il était capable et s'il avait tous les dons pour nous inculquer ce renouveau de la foi. Car je crois que c'est cela surtout qu'a été le Père Bariel, un prêtre, mais un prêtre qui avait la foi. Comme les apôtres, nos héros, orationi et ministerio verbi instantes erimus. Nous, dit saint Pierre, désormais, nous voulons nous consacrer entièrement au ministère de la prière et au ministère de la parole de Dieu. Qu'a fait le Père Bariel? Sinon se dévouer à ce ministère de la prière et de la parole de Dieu. Homme de prière, Dieu sait si le Père Bariel le fut. Je puis le témoigner encore, ces derniers jours, j'étais avec lui à Montalengué, car il était dévoré par le désir de prêcher, et il voulait aller encore, malgré sa maladie, malgré sa faiblesse, il a voulu se rendre encore à Montalengué. Et il a voulu, puisqu'il ne pouvait pas prêcher, étant donné son mauvais état de santé, il a voulu prier. Et malgré sa déficience, il a demandé qu'on le conduise pendant la nuit à la chapelle pour qu'il puisse faire une heure d'oraison. Et je lui faisais remarquer, mais mon cher père, de grâce, vous savez bien qu'il n'est pas permis de se suicider. Et il me répondait, Monseigneur, j'attire des bénédictions sur la fraternité et sur ceux qui m'entourent pendant cette heure d'oraison. Je crois en effet que ce cher Père Bariel, par ses prières nocturnes, par son désir aussi ardent de célébrer le Saint Sacrifice de la Messe, la grande prière de notre Seigneur, la grande prière de l'Église, attirer des bénédictions sur la fraternité et sur tous ceux qu'il aimait, sur tous ses anciens retraitants, sur vous-même, mes bien chers frères. C'était un grand exemple. Ministère de la parole, ces dernières années, il le pouvait un peu moins, étant donné que sa santé n'était plus aussi robuste. Alors il écrivait. Et son dernier livre sur le Père Valette, qu'il m'a dédicacé, dans les lignes que je lisais encore ce matin, il me disait, « Monseigneur, je vous dédie ce livre sur le Père Valette, afin que ce Père puisse être un modèle pour vos jeunes prêtres et pour les prêtres de la fraternité. Je l'ai écrit au cours de mes insomnies pendant la nuit. » Voilà ce que faisait le Père Bariel. Passer ses nuits, puisqu'il ne pouvait plus prêcher, passer ses nuits lorsqu'il ne pouvait pas dormir, à écrire. Et à écrire avec quel style, vous le savez bien, toujours rempli de ferveur, d'ardeur, de courage, pour le salut des âmes. Quel bel exemple. Alors, mes chers amis, puisque vous avez eu cette grâce particulière, et vous, mes bien chers frères également, de connaître le Père Bariel, nous devons lui promettre de recueillir son héritage. De recueillir son héritage de telle sorte que il continue à parler. Defunctus ad hoc loquitur. Défunt, il parle encore. Oui, il parle et il parlera par nos bouches. Il parlera par ses écrits. Il parlera aussi par sa présence parmi nous. Car il est bien certain qu'il demeure auprès de nous. Oui, demandons au Père Bariel d'être notre protecteur, d'être notre intercesseur auprès de Dieu, afin que dans ce grand combat qu'il menait, nous ne nous découragions pas, comme lui, avec la même force, avec le même don de force, avec la même foi que lui, nous continuions à combattre ce bon combat jusqu'au moment où un jour nous pourrons aller le rejoindre. Pour mener ce combat, il s'entourait de toutes les puissances du ciel. Il s'entourait de la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie. Dieu sait s'il vous disait encore, cher Valaisan, qui êtes ici dans sa lettre aux Valaisans, il disait, si vous voulez garder vos foyers dans la foi, si vous voulez sauver vos âmes, récitez le chapelet en famille. Une maison dans laquelle on récite le chapelet en famille est une maison qui se sauve. Combien il aimait les Valaisans et combien il vous était attaché. Et il s'entourait aussi de la dévotion au Sacré-Cœur, de l'abat-Rome, comme il disait dans sa brochure, le drapeau du chrétien, c'est le drapeau du Sacré-Cœur, la grande miséricorde de Dieu. Ce fut sa dernière parole presque qu'il a adressée, je crois, à un des séminaristes qui l'entourait lorsqu'il le reconduisait après sa messe dans sa chambre. Il disait, avez-vous besoin de quelque chose, mon grand-père? Et il répondait, j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Voilà les réponses de cet homme de foi. Dévotion aussi aux saints anges. Il a écrit une magnifique brochure sur les saints anges. Dévotion à Saint Joseph. Il aimait beaucoup la dévotion à Saint Joseph. Et est-ce que Saint Joseph n'a pas voulu lui manifester justement son amour en venant le chercher aux premières heures du mois qu'il lui a consacré? La première masse, dans les premières heures du mois de Saint Joseph. Saint Joseph est venu le prendre d'une manière vraiment quasi inattendue. En l'espace de 3 heures, notre cher Père Mariel est parti pour son éternité bienheureuse. Alors gardons précieusement dans nos mémoires, dans nos cœurs, ce bon souvenir de ce prêtre au cœur de feu, à la fois inébranlable et à la vie spirituelle si profonde. Aux ailes pour le salut des âmes, demandons à tous ceux pour lesquels il avait une grande dévotion de nous aider à le suivre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Okay. Cher Monseigneur Lefebvre, chers confrères, chers parents et amis du Père Bariel, dans son homélie tellement simple et émouvante, Monseigneur Lefebvre a parlé tout à l'heure de l'amitié, de l'amour que le Père Bariel portait aux Valaisans. C'est vrai que le Père Bariel nous aimait beaucoup. Et c'est vrai que nous l'aimions beaucoup. Dès qu'il est venu ici à Écône en 1971, le 3 mai, il nous a réunis, quelques-uns, et souvent il nous parlait de sa mort. Et il avait choisi, pour exécuter ses dernières volontés, le cher Alphonse Pedroni. Décédé le 1er novembre 1978. Alors il a dû refaire son testament. Et il m'a chargé, j'étais en deuxième position, de prendre le relais et d'exécuter ses dernières volontés. En date du 13 novembre 1978, 13 jours après la mort du cher Alphonse. Mais avant de me faire le porte-parole du Père Bariel pour vous donner lecture de son testament, j'aimerais en son nom remercier très chaleureusement Son Excellence Monseigneur Lefebvre pour la magnifique cérémonie des funérailles qu'il a fait organiser pour le Père Bariel. Personnellement, je n'ai jamais assisté à un enterrement de prêtre aussi beau. Quelle est belle notre liturgie! Vous aviez raison de le dire, Monseigneur, en commençant. Et vous aviez aussi raison de parler du purgatoire, parce que souvent le Père Bariel me disait, attention, Ne me laissez pas végéter en purgatoire. Priez pour moi. Je remercie aussi particulièrement Monsieur le Directeur, l'abbé Bernard Tissier de Malraix et tout le corps professoral pour tout le dévouement que vous avez eu à l'égard du Père Bariel. Spécialement ces jours-ci, j'ai pu apprécier ce dévouement, votre générosité, votre serviabilité pour lui donner des funérailles vraiment dignes de ce nom. Je voudrais remercier aussi tout particulièrement toutes les personnes qui se sont dévouées pour soigner le Père Bariel. Vous savez, quand on vient vieux, le bon Dieu nous dépouille peu à peu de toutes sortes de choses. Et on devient à charge. Et c'est pas rien de se sentir à charge, de ne plus pouvoir faire comme les autres. Alors au nom du Père Bariel, à toutes les personnes, particulièrement aux sœurs, aux frères, à tous ceux qui avaient quelques compétences dans la médecine, qui se sont dévoués pour le soigner, pour l'aider dans ses vieux jours, je dis un profond merci. Il était en famille ici à Écône. Je me souviens, en février 1971, il n'était pas encore ici, il avait passé dans ma paroisse de bon matin avec Rémi Borgia. Il s'était allé en pèlerinage incognito à San Damiano. Arrivé dans la nuit, ils ont frappé à ma cure. Le Père Bariel voulait dire la messe. Je l'ai conduit dans l'ancienne église de Ride. Avant de lui servir la messe, je lui ai dit, mon père, je le connaissais depuis 1957. Ça fait 26 ans que je connais le Père Bariel. Mon père, vous connaissez la crise. Quelle messe voulez-vous dire? Il m'a dit, vous savez comment on me traite. Je suis prisonnier. Ici, vous êtes chez vous. Vous avez comme moi, comme servant de messe, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Alors il a pris, je lui ai donné l'ancien missel. Il a célébré la messe de toujours. Et à la fin, rentrant à la sacristie, il m'a embrassé, il pleurait d'émotion. Il m'a dit, c'est ça qu'il faut reprendre. Rentré à la cure, on a fait une réunion avec Alphonse Pedrodi, Rémi Borgia, Albert Bochu. Alphonse et Albert sont déjà dans l'éternité. Et nous lui avons fait comprendre que maintenant, c'était le moment pour lui, lui qui nous avait matraqué tellement dans les retraites, lui qui nous avait dit qu'il fallait être des combattants, c'était le moment pour lui de venir combattre avec nous ici, à Écône. Alors il nous a dit, ben, si c'est la volonté de Dieu, je viens le prier. Et le 3 mai, le jour de l'invention de la Sainte Croix, le jour anniversaire où le Père Valet a eu l'autorisation de quitter les jésuites pour fonder sa congrégation des coopérateurs paroissiaux du Christ Roi, il est arrivé ici. Et Monseigneur a eu la bonté de le nommer directeur spirituel d'Écône. Et je puis vous dire, parce que j'étais son confident, qu'il s'est donné de tout son cœur à cette tâche. Il avait 74 ans, n'oubliez pas, quand il a commencé ici. Déjà bien dans sa vieillesse, mais il a vraiment donné tout ce qu'il avait. Lui qui avait été curé de Marseille, et il est resté curé dans l'âme. Lui qui avait été le prédicateur tonitruant des exercices, et il fallait le voir et l'entendre prêcher dans sa pleine forme. Il est venu sur la fin de ses jours, pendant ses 12 ans ici, celui qui a formé des prédicateurs de retraite. C'était sa grande joie. Il aurait voulu que son œuvre puisse continuer, mais il ne savait pas trop comment. Il a prié, il a fait prier, et pour finir, il a compris que la Providence l'avait placé ici pour transmettre le virus des exercices. Et il a eu la joie de son vivant de voir des jeunes prêtres qui ont été formés ici partir un peu dans tous les pays et prêcher les exercices selon la stricte observance, non seulement en français, mais en allemand, en anglais, en espagnol, en portugais, en italien, dans toutes les langues les plus parlées du monde. Et c'était certainement très émouvant pour tous ceux qui ont appris sa mort, de savoir que partout, un peu, j'allais dire, sur tous les continents, dans différents pays du monde, ces jeunes prêtres formés aux exercices ont pu célébrer des messes à sa mémoire. Eh bien, le Père Barry a trouvé ici, cher Monseigneur, grâce à vous, grâce à votre bonté et aussi à votre discernement, parce que vous avez bien sûr très vite décelé la force d'âme qu'il y avait chez ce prêtre, plein de feu pour notre Seigneur, il a pu donner le meilleur de lui-même. Il a eu la grâce encore de mourir au combat. Il a eu la mort qu'il aurait désirée. Et il a eu l'enterrement qu'il méritait. Merci, Monseigneur, pour ce que vous avez fait pour lui. Voyez, vous avez parlé de sa dévotion envers la Sainte Vierge, envers Saint Joseph, envers les saints anges, envers le Sacré-Cœur. Lundi, quand je l'ai vu pour la dernière fois, il s'est confessé. Et je lui ai dit, Père Bariel, demain on commence le mois de Saint Joseph. Ah, il m'a dit, tu fais bien de me dire. Le mois de Saint Joseph, ça commence à minuit. J'ai dit, oui, ça commence à minuit. Eh bien, dans les premières heures du mois de Saint-Joseph, il est parti vers l'éternité. C'était un mardi, un jour qui est dévoué à la dévotion envers les saints anges. La brochure qu'il a écrite sur les saints anges était sa brochure préférée. Et il est enterré un vendredi, jour du Sacré-Cœur, premier vendredi du mois. Encore une dévotion qui lui était tellement à cœur. Et combien c'était émouvant de le voir, de l'entendre prêcher des exercices au moment de la troisième semaine, quand il nous parlait de la passion du Christ, quand il nous parlait de l'amour miséricordieux du Sacré-Cœur. Vraiment, et il a réussi encore en beauté sa sortie, parce que c'est le premier prêtre d'Écône qui est enterré ici à Écône. C'est pas rien. Et vous avez, mes chers jeunes séminaristes, vous aurez l'occasion d'aller souvent vous recueillir sur sa tombe. Il est pour vous un exemple. Priez pour lui et invoquez-le aussi, parce qu'il peut vous obtenir la grâce des grâces, celle de devenir un jour de saint prêtre. Je vous donne maintenant lecture de son testament. Ceci est mon testament, Pax Christi Regis, 13 novembre 1978. L'etatus sum inisque dicta sunt mici in domum domini ibimus. Stante terrant, pedes nostri natris vis Jerusalem. Ave Maria. Je sous-signé, Ludovic Marie Joseph Barthélémy Bariel, né le 14 août 1897, à Château-Gombert, banlieue de Marseille, de François et de Marie-Thérèse Luc, canoniquement mariés, baptisés et consacrés à Marie, 6 mois avant ma naissance à Notre-Dame de Confession, et le jour de mon baptême, 15 août 1897, après la grand-messe dans l'église paroissiale de Saint-Mathieu, confirmé le 6 avril 1906, ordonné prêtre le 24 juin 1924 en la cathédrale de Marseille, vicaire, procuré, et curé doyen du bon pasteur, de juillet 1924 au 15 juin 1942. Admis avec la permission de mon évêque au noviciat de l'Institut naissant des coopérateurs paroissiaux du Christ-Roi par le Père Vallée, fondateur, le 15 juin 1942, et a prononcé mes vœux perpétuels le 16 juin 1944. Nommé par le Père Vallée, Mgr Pic, évêque de Valence, supérieur de tout l'Institut naissant, le 20 décembre 1944, après avoir prêté publiquement serment de rester fidèle toujours aux constitutions données par le fondateur, le père François de Paul Vallée. Le 3 mai 1971, je fus autorisé par le supérieur général du moment, révérend père Pierre Mathieu, à devenir directeur spirituel d'Écône, fonction que j'ai remplie jusqu'à ce jour, pour moi grand honneur et grande joie, sous la direction de cet homme de Dieu et défenseur de l'Église et de la foi, Mgr Marcel Lefebvre. Le chapitre CPCR de 1973, où contre toute justice on refusa de m'admettre, ayant refusé de reconnaître le Père Vallée comme fondateur, et ayant changé le but, les moyens, ainsi que certains points posés comme essentiels par le fondateur, et admis certaines formes d'apostolat radicalement, exclus et interdits par le fondateur, j'ai écrit au révérend Père Mathieu, supérieur général réélu, une lettre officielle et définitive, lui disant que je n'étais jamais entré dans cette nouvelle congrégation adjournée, et donc que je n'avais pas besoin de sa permission pour le prévenir que je refusais d'en faire partie, ayant prêté serment de ne jamais accepter ces changements substantiels. Et comme je ne voulais pas sortir de là où j'avais fait mes vœux, je n'avais pas de permission à demander à la Sacrée Congrégation des religieux. Je suis donc resté le seul de la congrégation fondée par le Père Valet. Le 8 décembre 1974, j'ai demandé humblement à Mgr Marcel Lefebvre de bien vouloir me recevoir à vie dans l'Institut Saint-Pidis, ce qu'il a bien voulu m'accorder. Voici donc mon testament qui révoque tous les autres. Je veux vivre et mourir et être enseveli dans la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, suivant le rite fixé par Saint Pie V. Je demande à tous d'aimer Notre-Dame et Saint-Joseph et d'être fidèles à utiliser et à propager le Saint-Rosaire et les saints exercices confiés par Marie à Saint-Ignace. Je demande pardon à tous des peines ou torts que j'ai pu leur faire. Que tous sachent que je n'ai de rancœur pour personne. Dans la mesure où Dieu me le permettra, en purgatoire ou au ciel, je prierai pour tous ceux qui furent à tant de titres mes amis sur terre. Écrit et signé entièrement de ma main le 13 novembre 1978 au séminaire Saint-Pédis à Écône, 1908 Ride, Ludovic Marie Bariel, esclave de Marie et de Joseph. Vive Jésus, Marie, Joseph, dans tous les cœurs. Ah, qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est bon, le bon Dieu.
Dieu nous aime, d'un amour miséricordieux infini. Et tout d'abord, elle est très théologique, cette expression de la petite Thérèse, amour miséricordieux. Après le péché, Dieu ne peut nous aimer que d'un amour miséricordieux. Miséricorde qui devient de deux mots, misère et cœur. Nous sommes dans la misère, nous sommes des misérables, et Dieu nous aime quand même. Mais non seulement il nous aime, mais il nous aime d'un amour miséricordieux infini. C'est très vite dit ces trois syllabes, infini. Mais nous ne les comprenons pas. L'infini nous dépasse. Eh bien, il y a quelqu'un qui nous aime d'un amour miséricordieux, malgré nos péchés, d'amour infini. Bien que nous ne puissions pas le comprendre, il faut essayer quand même. Il y a des amours bien doux sur la terre, voyez-vous, d'un père pour son fils, d'un fils pour son père. Amour d'époux, de fiancé. On dit que l'amour le plus fort, c'est l'amour d'une mère. Ils ne sont pas infinis. Et si nous réunissions tous ces amours, nous n'en fassions qu'un, il serait un amour considérable, il ne serait pas infini. Alors, eh bien, Dieu nous aime d'un amour infini. Et pour que vous le sachiez. Il y a quelqu'un qui nous aime d'un amour infini. Et c'est Dieu. C'est justement celui que nous avons offensé. Essayons de comprendre. C'est pas moi qui l'invente. Ouvrons ce livre qu'on appelle les saintes lettres. Les lettres que Dieu a écrites à l'homme dans la Sainte Écriture. On les a renfermées dans un livre qu'on appelle le livre, To Biblon. Le livre par excellence. Bien, Dieu nous aime d'un amour infini. Infini en durée. Depuis combien de temps le bon Dieu nous aime? J'ai demandé cela un jour à un fils de retraitant, un jeune homme de 14 ans. Depuis combien de temps bon Dieu t'aime? J'ai jamais pensé. Depuis ma naissance? Non. Bien avant. Bien avant. Il y a 2000 ans, quand Jules César conquérait les Gaules, il y avait déjà quelqu'un qui nous connaissait et qui nous aimait, c'est Dieu. Et personnellement, bien avant, quand Dieu a créé le premier homme, il y avait quelqu'un qui nous connaissait et qui nous aimait personnellement, c'est Dieu. Il nous aimait déjà. Bien avant, quand la Terre s'est détachée du Soleil, combien d'années, on ne sait pas. Les savants ne sont pas d'accord. Eh bien déjà, quand la Terre s'est détachée du Soleil, il y a quelqu'un qui nous connaissait et qui nous aimait. Bien avant, quand Dieu a créé le monde, car Dieu a créé le monde cette fois, eh bien il y avait déjà quelqu'un qui nous connaissait et qui nous aimait personnellement. Et je n'invente pas. Prenez le chapitre 25 de saint Matthieu. Venez les bénis de mon Père, recevoir le royaume qui vous a été préparé, ante constitutionem mundi, avant la création du monde. Et donc Dieu nous connaissait par notre nom et nous aimait avant la création du monde. Alors dit saint Jérémie, un vieil ami ne l'abandonne pas. Tu ne retrouveras jamais son pareil. Avons-nous un plus vieil ami que Dieu? Ante constitutionem mundi, déjà il nous avait préparé toutes les grâces. Il nous connaissait par notre nom, oui, chacun. Toutes les grâces, il nous a préparé, tout ça, cette retraite, tout ça. Ante constitutionem mundi. Voilà. Nous n'avons pas de plus vieil ami que celui-là. Un vieil ami ne l'abandonne pas. Tu ne retrouveras jamais son pareil, dit le même prophète Saint Jérémie. Amour infini en efficacité. Ça. Que pouvais-je faire pour ma vigne et que je n'ai fait pour elle? Je ne sais pas si vous avez vu Aricon Pellani, par exemple, qui s'occupe des vignes de façon extraordinaire. Et tous les paysans voisins, d'ailleurs, tous les cultivateurs. Quelquefois, je le regarde de ma fenêtre. Même en hiver, ils s'amènent là. Dès qu'il fait jour, ils vont à leur vigne. Si vous regardez, il n'y a pas un sort de chien dedans, ils ont dit. Tout ce qu'ils font. Et toute l'année, ils s'en occupent. Et si pendant la nuit, s'il y a le thermomètre baisse trop, alors tout de suite, il y a la sirène de Saxon qui sonne et tout ça se lève. Il y a quelques années, tout le monde mettait, il y avait dans les vignes des vasques de mazout, ils allaient mettre l'ombre et toutes les vignes illuminées. Maintenant, ils font mieux, ils ont installé de l'eau, alors ils font geler, ils arrosent les vignes et ça se gère, c'est un autre système. Oui. C'est moins cher d'ailleurs. Oui. Tout ce qu'ils font pour la vigne. Que pouvais-je faire pour ma vigne que je n'ai fait pour elle? Eh bien, nous, Dieu nous compare à une vigne. Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour nous qu'il n'a pas fait? Et avez-vous songé tout ce que Dieu a fait pour vous? Depuis bien avant votre naissance, pour vous préparer, etc. Votre famille, le milieu et tout. Que pouvais-je faire pour ma vigne et que je n'ai fait pour elle? Amour infini en efficacité. Reviens vers moi. Et quand même tes péchés t'auraient rendu rouge comme de la pourpre, je te rendrai blanc comme de la neige. Et si tes péchés t'avaient rendu rouge comme du vermillon, je te rendrai blanc comme de la laine blanche, nous dit Dieu par le prophète Saint Isaïe. Qu'il est bon, mon Dieu. Et le prophète Saint Michel nous dit, reviens vers moi. Et tes péchés, je les jetterai au fond de la mer. Je ne sais pas si tous vous avez vu la mer, là-bas au loin, certains jours, certains bateaux vont au large, un bruit de soupape, tout ce qu'ils jettent tombe au fond de l'eau, c'est fini. Il n'en sera plus question. Eh bien, si nous revenons vers lui, tes péchés, je les jetterai au fond de la mer. D'autres, dans un autre texte, le prophète Isaïe nous dit encore, reviens vers moi. Et tes péchés, je jetterai derrière mon dos. Il n'en sera plus question. Nous n'en parlerons plus. Même s'ils sont des péchés très graves, nous n'en parlerons plus. Qu'il est bon, mon Dieu. Amour infini en douceur. Est-ce qu'une mère peut oublier son enfant? Eh bien, même si une mère pouvait oublier son enfant, moi, je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur par le prophète Saint Isaïe. Voilà. Amour infini. Qu'il est bon, Seigneur. Je vous citais tout à l'heure une parole terrible du prophète Saint Ézéchiel. Mais le même prophète, quand il parle de l'amour de Dieu, alors, a des chapitres entiers qui vous arrachent des larmes. Sur ce thème, je ne veux pas la mort de l'impie, moi, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Est-ce que je veux la mort de l'impie, moi? Est-ce que je ne veux pas au contraire qu'il se convertisse? Reviens vers moi et tu vivras. Reviens vers moi et tous tes péchés ne te seront pas imputés en crime. Et c'est le même prophète, Saint Ézéchiel, qui a cette parabole du bon pasteur que Jésus reprendra pour montrer combien il est bon. Les premiers chrétiens représentaient le Sacré-Cœur sous la forme du bon pasteur, non pas avec le cœur, mais le bon pasteur. Voilà. Si vous ouvrez le beau livre des psaumes, où le Saint-Esprit, comme une maman qui apprend à son petit à parler, Dis merci au monsieur. Dis merci. Pardon, papa. Bonjour, ma soeur. Le Saint-Esprit a voulu nous apprendre à prier. Et il a inspiré le livre des psaumes qui nous indique les divers sentiments que l'âme doit avoir à Dieu, envers Dieu quand elle parle. Que de belles choses il y a dans les psaumes. C'est là que le prêtre apprend à prier. Pilis avait voulu que dans la semaine, toute la semaine, on dise le psautier entier. Le prêtre dit son psautier entier. Dans le bréviaire de prêtre de Pilis, c'est ça. Ce qu'a fait Pilis. Parce que là, nous avons comment parler au Saint-Esprit. Et si dans le psautier, vous cherchez ce mot miséricorde, mais miséricorde de Dieu par rapport à nous pauvres pécheurs, vous serez étonné du nombre de fois où le psalmiste inspiré parle de la miséricorde de Dieu vis-à-vis de nous pécheurs. Et si vous y regardez de plus près, tâchez de voir en quels termes le prophète inspiré parle de cette miséricorde de Dieu. Alors vous serez étonné. Miserere mei Deus secundum magna misericordiam tua. Et pitié de moi, pourquoi, suivant votre sainte miséricorde. Et secundum multitudinem, et à ces répétitions, et secundum multitudinem miseration tua. Suivant la multitude de votre pitié, de votre amour, ça veut dire. Et pitié de moi, gratis, ça veut dire. Voilà. D'autres fois, le psalmiste ne peut pas traduire ce qu'il voit. Ça ne peut pas se dire. Alors il parle comme il peut. La miséricorde de Dieu, mais elle va du nord au midi, elle va de l'est à l'ouest, elle va de l'éternité à l'éternité. Ça ne peut pas se dire. Le psaume 135e n'est pas le plus long, mais il est un des plus longs. Il est tout à fait sur ce thème, et à chaque verset, le peuple reprenait en cœur comme un couplet. N'est-ce pas? Et misericordiaeus manet in eternum. Et sa miséricorde, elle est pour l'éternité. À chaque verset, le peuple reprenait et misericordiaeus manet in eternum. Chantez le Seigneur parce qu'il est bon, parce que sa miséricorde est éternelle. Et là, d'année en année, sa miséricorde est éternelle. Cognam in eternum misericordiaeus, parce que sa miséricorde est éternelle. Voilà la miséricorde. Ça ne peut pas se dire. Ça ne peut pas se dire. D'autres fois, ce que l'on appelle en littérature un pléonasme. Le prophète ne peut pas traduire ce qu'il voit, alors il fait des pléonasmes. Il se répète. Vous avez des psaumes qui se répètent tout le long. Miséricorde, miserator dominus. Et il se répète continuellement. Ça ne peut pas se dire ce qu'il voit. Cette miséricorde, elle est extraordinaire. Aussi, la Sainte Église appelle Dieu, Dieu de miséricorde. Dieu Père des miséricordes. Et la dernière fois, dans l'ancienne liturgie, la dernière fois qu'on apporte un pauvre chrétien à l'Église, pauvre homme qui a des comptes à rendre peut-être terribles, la Sainte Église voudrait toucher son époux pour essayer d'obtenir miséricorde à ce pauvre pécheur qui a peut-être des comptes terribles à rendre. Qu'est-ce qu'elle a trouvé pour toucher le cœur de son époux? Ô Dieu, dit-elle, Deus qui proprium est, ô Dieu dont le propre, quel est le propre de Dieu? De faire des miracles, de châtier les démons dans les enfers, de créer le monde, oui. L'Église a trouvé encore bien mieux. Deus qui proprium est, miserere semper et parcere, dont le propre est de pardonner toujours et de toujours faire miséricorde. Voilà le propre de Dieu. Voilà le Dieu devant lequel nous allons nous présenter demain, plein de miséricorde. Sans doute, on ne se moque pas de lui. Ça, il ne peut pas l'accepter. Dieu ne peut se renier de sa part. Mais si nous revenons humblement à lui, alors il est le Père de miséricorde. Mais alors, ceci entraîne une double conclusion. Première conclusion, le péché est beaucoup plus grave. Offenser quelqu'un, c'est très mal. Mais offenser une mère, et offenser une mère qui se serait dévouée d'une façon particulière pour vous, cela c'est inacceptable. La France, jusqu'à ces dernières années, envoyait ses forçats à l'île du diable. En Guyane, c'est sous l'équateur, là-bas, sous les tropiques. Voilà. Et avec la permission du gouvernement, on pouvait visiter l'île du diable, les voyageurs. C'était généralement un forçat qui faisait visiter. Et on ne tardait pas à se rendre compte que ces hommes rejetés de toute la société, il y avait tous les criminels qui étaient là, tous les grands criminels, ils avaient quand même conservé un point d'honneur. Oh, oui, oh, monsieur ici a des gens très bien, vous savez. Un tel, voyez, il est général celui-là. Ça, c'est le fameux poète. Ça, c'est le fameux bandit qui a tenu la police en échec pendant des semaines. Tous les grands journaux ne parlaient que de lui. Pendant... Ça, c'est lui, c'est celui-là. Et puis, alors, celui-là, c'est un député. Celui-là, c'est... Non, non, il y a des gens très bien. Celui-là, les médecins. Cependant, il y a une catégorie de forçats auxquels les forçats eux-mêmes se seraient cru déshonorés si leur avait adressé la parole. Ceux qui étaient au bagne pour avoir tué leur père ou leur mère. Cela, les forçats se donnaient le mot, à eux, jamais un mot, ce qui était terrible pour les autres. Cela, les forçats ne le comprenaient pas, qu'on puisse tuer son père ou sa mère. Mes chers amis, par le péché mortel, nous avons tué notre père et notre mère et bien plus, celui qui nous aime infiniment, qui nous a tout donné. Voyez, si notre péché est grave, nous avons vu que nous ne pouvions pas comprendre la gravité du péché parce que c'est la bonté infinie que nous avons offensée. Et la bonté infinie qui nous aime infiniment. Voyez, si nous devons pleurer nos péchés. Mais deuxième constatation, attention, c'est que l'amour exige la confiance. Qu'un père dise à un de ses fils, « Ça suffit, tu en as trop fait, je te défends de mettre les pieds à la maison, je ne veux plus te voir. » Que ce fils aille trouver son père en lui disant, « Papa, tu as raison, j'ai très mal fait, mais je veux me racheter. Papa, veux-tu m'aider ?» À ce moment-là, le père oublie tout ce qu'il a dit et il aide son fils à se racheter. Plusieurs fois, à l'occasion des retraites, j'ai dû ainsi m'entremettre entre le fils prodigue qui en avait fait de toutes les couleurs et le papa. Et toujours ça a réussi. Tout de suite, le papa a aidé son fils à se racheter. Eh bien, oui, nous avons péché. Contre celui qui nous aime infiniment, et c'est très grave. Ça, il faut que nous le comprenions. Je dirais que c'est impardonnable. Cependant, puisqu'il nous aime, n'ajoutons pas à nos péchés celui de manquer de confiance en lui, alors cela, nous l'offenserions terriblement. L'amour exige la confiance. Il veut que nous ayons confiance en lui. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus disait, « Ce qui offense le plus Jésus, c'est le manque de confiance. » Vous avez tous lu dans l'histoire d'une âme ce passage où elle exprime pourquoi elle a une pareille confiance en Dieu. « Ce n'est pas, dit-elle, parce que je n'ai pas fait de gros péchés, de grands crimes, que j'ai une pareille confiance. Quand même j'aurai la conscience chargée de tous les crimes qui se peuvent commettre. » Dit cet enfant qui a avoué que depuis l'âge de 4 ans, elle n'avait jamais rien refusé au bon Dieu. Quand même j'aurai la conscience chargée de tous les crimes qui se peuvent commettre, je ne perdrai rien pour cela de ma confiance. J'irai, attention, j'irai le cœur brisé de repentir, me jeter sur le cœur de mon Seigneur, de mon Sauveur. Après le péché, on ne vient pas les mains dans les poches. Ah non. C'est qu'en s'humiliant vraiment devant Dieu, en demandant vraiment pardon, j'irai le cœur brisé de repentir, me jeter sur le cœur de mon Sauveur. J'ai entendu ces paroles à Sainte Marie-Madeleine, à la femme adultère. Je sais qu'il chérit l'enfant prodigue. Non, rien ne pourrait m'arrêter, car je sais que toutes mes fautes s'évanouiraient en un clin d'œil, comme une goutte d'eau sur un brasier ardent. C'est un grand feu, jeter un verre d'eau, un petit peu de vapeur, c'est fini. Eh bien, si je vais le cœur brisé de repentir, attention, me jeter dans les bras de mon Sauveur, je sais que toutes mes fautes s'évanouiront en un clin d'œil, comme une goutte d'eau sur un brasier ardent. Et alors, mes chers amis, nous devons méditer cela. Essayez de comprendre que Dieu nous aime d'un amour infini. Voyons mieux la gravité de nos fautes. C'est lui que nous avons offensé. Lui qui vous aime tant. Mais de notre côté, la confiance. N'ajoutons pas à nos péchés celui de manquer de confiance en lui, de douter de son amour. Alors ça, après, ça serait fini. Alors il n'y aurait plus d'espoir pour nous. Croyons à sa confiance, à ça. Allons nous jeter le cœur brisé dans ses bras, et nous savons alors qu'il nous pardonnera. Terminé par des colloques d'amour. C'est facile à dire, mais il faut le dire avec amour. Il a été beaucoup remis parce qu'elle a beaucoup aimé. Si nous aimons beaucoup, plus nous avons été pécheurs, plus il faut promettre. Mais d'un amour vrai, d'un amour qui n'hésite pas à faire le sacrifice, comme la petite Hyacinthe, ou la petite Lucie, ou le petit François. Attention, l'amour vrai, disons-le à Jésus de tout notre cœur, et pendant la messe de cet apôtre, Saint-Barthélemy, Nathanaël, n'est-ce pas, disons à notre Seigneur que nous voulons l'aimer. Alors, sachez que toutes vos fautes s'évanouiront en un clin d'œil. Tes péchés n'en sera plus question entre nous. Qu'il est bon, mon Dieu. Croyons à cela. Nous allons faire l'examen, puis vous irez prendre votre repos. Numéro 43, ou si vous voulez la page 7, la page 6 et 7, comme vous voudrez. Se recueillir en présence de Dieu. Acte d'adoration. Remercions Dieu de la grâce de cette journée. Quelle journée pour nous, pour obtenir le pardon de nos péchés. Deuxième point, demandant de savoir faire nos examens. Nous rendre compte de ce qui se passe en notre âme. Troisième point, les péchés que nous avons faits cet après-midi, si nous avons eu le malheur d'en faire. Voyons un peu. Ne confondez pas tentation et péché. Alors, examen. Avons-nous manqué à certains points de la retraite? Au silence, au recueillement, à prendre des notes, à consulter, que sais-je, à bien faire les préludes, à bien faire les colloques. Courage. Marquez le nombre de manquements. Mandez le crayon à votre voisin si vous n'en avez pas. Ensuite, demandons pardon. Et nous terminons par la finale de la prière du soir, à la page 7. Bénissez-vous, mon Dieu, le repos que je réponds. Pour réparer mes forces, afin de vous mieux servir. Vierge Sainte, mon Dieu, accueille ma plus ferme espérance. Saint Joseph, mon ange, mon seul patron, intercédez pour moi, protégez-moi pendant cette nuit, tout le temps de ma vie et à l'heure de ma mort, ainsi soit-il. pour les vivants et pour les fidèles trépassés.
Répandez, Seigneur, vos bénédictions sur mes parents, mes bienfaiteurs, mes amis et mes ennemis. Protégez tous ceux que vous m'avez donnés pour supérieurs, tant spirituels que temporels. Secourez les pauvres, les prisonniers, les affligés, les voyageurs, les malades et les agonisants. Convertissez les hérétiques et éclairez les infidèles. Dieu de bonté et de miséricorde, ayez aussi pitié des âmes des fidèles qui sont dans les purgatoires, spécialement de celles pour lesquelles je suis obligé de prier. Donnez-leur le repos et la lumière éternelle. Ainsi soit-il.
Prière à tous les saints.
Âme très heureuse, qui avez eu le bonheur de parvenir à la gloire, obtenez-moi deux choses de celui qui est notre Dieu et notre Père, que je ne l'offense jamais mortellement, et qu'il ôte de moi ses souliers et bien, ainsi soit.
Si vous avez peur de ne pas bien vous confesser, je vais vous dire un secret pour être sûr de toujours bien vous confesser. C'est de faire une bonne prière à la Très Sainte Vierge, et vous êtes sûr de bien vous confesser. Nous allons dire à cette intention les uns pour les autres, le souvenez-vous de Saint Bernard, à la page 249. 249. Pour demander pour nous et les uns pour les autres que tout le monde fasse une bonne confession. 249. Souvenez-vous,
ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorer votre assistance, réclamer votre intercession, et été abandonné. Animé de pareille confiance, j'accours vers vous, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous, et je m'y sens sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère de Mère incarnée, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement, et veillez les exaucer.
Allez, je vais vous bénir pour chasser tous les démons. Et puis vous allez prendre votre repos. Béni tu es mon Père, qui est le Fils le Puissant. Et ça n'a pas super beau, c'est de manière sainte. Amen. Nous sommes pour les pillards.
Amen.